tête. Oh, j'ai un mal de crâne. Oh, j'ai mal partout en fait. Oh. Mais comment je suis arrivé ici là? Ces enfoirés de chatons là, ils m'ont pas loupé. Et Taro qui est en fait leur chef. On se côtoie depuis tout ce temps. Jamais j'ai laissé quelqu'un être aussi proche de moi. Comment ai-je pas pu voir que c'était un traître? Je lui ferais regretter de s'être foutu de moi. Ah, ils m'ont ficelé à cette saloperie d'arme. Il y a peut-être un truc qui me serait utile dans le coin. Attends, mais il y a un truc à mes pieds là. Un Walkman. Et avec un petit mot dessus. Message pour Illicus. Smiley, bisou qui envoie un cœur. Du tarot pur jus. Qu'est-ce qu'il a encore?
Ça enregistre là? Test, test, 1, 2, 1, 1, 2.
C'est bon, ça enregistre, chef.
C'est bon, je le savais. Chut. Bon, alors mon texte. Ha ha, cher Illicus, nous t'avions bien dit que cette enquête te mènerait à ta destruction. Te voici à la plage de la création. Et j'ai fait de toi un repas tout prêt pour nos amis les Séléniens. Ils se feront un plaisir de te cribler de flèches et te ramener chez eux pour te transformer en mignonne petite bague de fiançailles. Sache que j'ai beaucoup apprécié ces mois en ta compagnie. Tes gesticulations furent fort divertissantes. Adieu.
Le samouraï et la soubrette. Useki no Kuni.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et tous donc dans ce nouvel épisode canonique du Brouhaï et de la Soupirette, le podcast où deux colocs vous parlent d'animation japonaise et plus si affinité.
C'est de pire en pire.
C'est de pire en pire. Et donc nous allons vous parler aujourd'hui de
Useki no Kuni,
ou L'ère des cristaux. Donc, qui est adapté à la base depuis un manga, donc sous forme d'animé par le studio Orange, qui a été diffusé du coup à partir d'octobre 2017, donc évidemment à la télévision japonaise, et du coup c'était sur ADN et J1 en simulcast, et aujourd'hui du coup c'est sur ADN. Xavier, que peux-tu nous dire sur le pitch, le concept de l'animé?
Eh oui, alors je peux essayer ça. In a world, dans un monde... Où, allez, on va faire ça correctement. Dans un monde où les humains semblent être désormais faits uniquement de matériaux durs type cristaux, il semble n'y avoir qu'une poignée, en tout cas, on va appeler ça des humanoïdes restants, qui sont tous rassemblés dans une sorte d'école dirigée par un maître. Et on va suivre... Un de ces humains qui s'appelle Phosphophyllite, contrairement aux autres, les autres ont tous des postes et des fonctions bien définies, cette personne-là semble un peu toujours se chercher et va rencontrer une autre personne nommée Cinabre, qui elle a un poste bien défini mais qui semble être très malheureux par rapport à ce poste-là. Et à partir de là, Phosphophyllite va se donner comme mission d'essayer de trouver, de rendre Cinabre plus heureux, malgré la menace constante.
En lui trouvant une occupation plus intéressante.
Voilà, malgré la menace constante d'ennemis dont on ne sait peu de choses, qui s'appellent les Séléniens.
Et qui viennent du ciel.
Exactement.
Ok, bon, et bah écoute, défi pas forcément simple, mais que tu as relevé avec brio. Félicitations.
C'est peut-être parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce dont on va parler.
Oui, on a dit qu'on parlait tout sauf de la musique, c'est ça?
je démissionne.
Très bien, voilà, t'étais pas payé, je te rappelle.
je ferai juste le soupirail, voilà, le podcast de soupirail bientôt dans vos oreilles.
Allez, attaquons par le visuel du coup.
Yes, donc bah voilà, bon, j'ai dit que j'aimais beaucoup, et soyons clairs, Useki no Kuni, l'ère des cristaux, c'est la première série japonaise en full 3D, donc en CGI, dont j'ai apprécié les visuels de bout en bout, et dont j'appréciais globalement la proposition technique et artistique. Il faut dire que, donc, comme tu l'as dit, c'est une série qui a été faite par le studio Orange. Orange qui avait déjà participé à pas mal d'autres séries, mais pour faire de l'incrustation 3D, sur d'autres séries dont on a parlé ou dont on va parler. On va parler, on va évoquer notamment Black Lagoon, sur lequel ça a été fait. Je sais que ça a été fait sur d'autres séries de ces années-là, et des séries qui se caractérisent par une incrustation vraiment très propre, contrairement à ce qu'on peut voir par exemple aujourd'hui.
Dans Overlord.
C'est marrant, j'allais pas dire Overlord, mais tu m'y forces.
Bah, point Godwin de l'incrustation CGI.
Mais en tout cas, voilà, c'est, ils sont en tout cas réputés pour leur travail très propre et pour une première série qu'ils font vraiment de bout en bout en 3D, et ben, c'est vraiment excellent. Mais je te laisse détailler un peu en professionnel la qualité de ce travail-là.
Oh là là, tu me mets la pression là d'un coup. avant de parler de 3D, j'ai trouvé qu'il y avait un gros travail sur la composition des plans. En général, dans Osiki no Kuni, c'était vachement intéressant. Et du coup, pour revenir sur la CGI, j'en ai parlé un petit peu avec Beastars. J'ai trouvé l'ensemble un peu moins réussi, moi, dans Osiki no Kuni.
Stop.
Quoi?
Non, tu n'as pas le droit d'avoir cet avis en ma présence.
C'est ça, voilà. Par contre, ça permet quand même des trucs intéressants, notamment il y a des couleurs, des brillances, des reflets, voire de la transparence, tout ce qui est les cheveux. Parce que comme tu l'as dit, ce sont des humanoïdes mais faits de cristaux. Donc en termes de rendu, ça leur permet un petit peu de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Ça va d'ailleurs être un bon résumé de l'animé, sortir de l'ordinaire.
Ouais.
Y a par contre, contrairement à Beastars cette fois-ci, des mouvements de caméra qui sont vraiment là pour justifier de la 3D et pour en tirer parti. Et ça, c'est super cool. Notamment certaines scènes de combat, voire des courses. D'un personnage, un Naruto run quoi, dans la forêt, typiquement, là c'est filmé de façon complètement dingue. Y a une certaine gestion des fluides aussi. Alors tantôt, je trouve le rendu visuel n'est pas forcément toujours très réussi en termes de texture et de matériaux, de shading, etc. Par contre, c'est quand même super bien fait en termes d'animation, et il y a quand même des moments où visuellement ça rend bien aussi, donc c'est plutôt sympa. Et par contre, ouais, en termes d'animation des corps, surtout quand ils sont pas forcément très mobiles, les mouvements lents du quotidien, c'est pour ça que je préférais Beastars l'ensemble de la partie 3D. J'ai toujours cette impression que c'est sur la Lune, en fait, que c'est à faible gravité et qu'il y a une certaine inertie, un certain lag dans les mouvements, et avec une espèce d'aspect vallée dérangeante sur le début où j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Même si bon, ça m'a pas du tout empêché de rentrer après dans la série.
Alors pour le coup, je comprends en fait pourquoi on peut avoir cette impression là. Moi, c'est quelque chose que j'ai tout de suite accepté parce que justement, comme l'univers est entre guillemets tellement va dire différent ou des archétypes qu'on connaît, que c'est quelque chose que j'ai accepté assez rapidement, cette différence entre guillemets de gravité ou de célérité des mouvements. Et en tout cas ça m'allait très bien, et entre guillemets ça justifiait des mouvements très aériens pour les combats, quoi.
Ok, bon, attaquons du coup la narration.
Alors la musique, qu'est-ce que t'as pensé qu'est-ce que t'as... Alors Jean, je vais te laisser la place. Qu'as-tu pensé de l'opening de L'ère des cristaux?
La chanson est très jolie, mais surtout c'est la composition visuelle de l'opening qui est super intéressante, qui colle bien en plus à l'aspect graphique de l'animé. Et ouais, il y a vraiment eu une réflexion là-dessus. Je trouve ça vraiment, enfin, c'est presque hypnotisant à regarder. Donc très sympa. Voilà, du coup, narration, alors...
Avec un côté ouais, un peu fractal, comme si on rentrait dans un... Tu sais, quand on regarde les éclats d'un diamant taillé et qu'on va avoir plein de réflexions dans tous les sens, ouais, c'est vrai que ça, plus les couleurs, c'est vrai qu'il y a un truc pas mal. Et puis, pour peu qu'on ait quelque chose avec un bitrate suffisant, et ben, ça donne un truc sympa. C'est pour ça... Effectivement, je ne sais pas si on est censé y revenir, mais ouais, mettez-le dans de bonnes conditions, parce que avec autant de couleurs et autant de fractales, en général, ça donne une bonne bouillie si tu regardes ça dans pas
ça
dans...
tombe bien, il n'est pas dispo sur Netflix. Voilà, les rois de la compression.
C'est bon, maintenant on va parler musique.
On n'avait pas dit narration.
Donc, cet opening, effectivement, je suis d'accord avec toi, il est incroyable. C'est une composition vraiment... vraiment complexe, entre jazz, trip-hop avec voilà une rythmique vraiment très complexe, mais quand même entêtante. avec des changements de rythme, avec beaucoup d'instruments très différents qui ont chacun leur mélodie, que ça soit voilà guitare, violon, piano, c'est vraiment une chanson qui est extrêmement réussie. Moi qui aime bien tout ce qui est math rock, trip hop et tout, c'est vrai que j'étais complètement dedans dès la première fois quoi. De manière générale, on retrouve quand même de belles mélodies au piano. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Jean.
Ouais, ouais. Bah le tout début du premier épisode s'ouvre sur un rapide insert au piano, qui est une mélodie qui est somptueuse quoi.
C'est une belle mélodie, et encore plus que cette mélodie, c'est d'abord effectivement l'insert au piano, et après l'arrivée justement des violons sur la deuxième récursion du thème. Et ça marche. Enfin, c'est un classique, mais ça marche extrêmement bien.
Oui, il y a de très jolies mélodies au piano ou au violon dans l'ensemble, dans l'OST. De toute façon, c'est indéniable.
Parce que oui, on peut avoir aussi des musiques voilà, assez classiques, un peu piano ou violon très orienté, un peu et musique épique qu'on va trouver dans des RPG japonais classiques, notamment au niveau des combats ou de certaines scènes d'action. Mais là où la musique se distingue, c'est quand on va parler notamment des Séléniens et de leur espèce de farandole funeste avec une musique vraiment très dérangeante au début, mais c'est peut-être l'effet voulu, franchement.
Je pense, hein. Ouais.
Voilà,
ouais.
Avec beaucoup des percus dissonantes, des lignes de violon, qui vont vraiment sortir de l'ordinaire, des phrases musicales auxquelles on s'attend pas du tout et qui marchent vraiment, qui correspondent absolument au côté très très flippant en fait des Séléniens qui sont des personnages
des statues dorées de Bouddha archer volante,
c'est ça qui ne s'expriment jamais. Surtout
oui
et dont on ne sait absolument rien, en tout cas qui s'est pas explicité, c'est pas explicité dans la série. Donc ça rajoute au malaise. Et puis voilà, quand tu parlais des belles compositions, il y a justement toute cette musique qui correspond aux grands espaces, hein. De la musique lounge, des fois avec un arrière d'orchestre symphonique, mais avec des consonances un peu mystiques. On va entendre de la scie musicale, des tambourins, des clochettes, mais très discrètes, qui viennent d'un peu de même de loin des fois. Et enfin voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une bande originale qui est aussi singulière que le monde qu'elle décrit. Voilà.
Ouais.
Un tout petit dernier mot sur le côté sound design. Comme on le disait, les personnages, ils sont tous faits de cristaux. Donc on va avoir des bruitages un petit peu différents de ce qu'on a d'habitude lorsqu'on a des personnages humanoïdes, donc avec notamment des sons modifiés pour les impacts, pour les pas, vu que les personnages ont tous des talons. On va avoir aussi les brisures qui sont... Il y a beaucoup de sons de brisures de cristaux, et c'est vrai que c'est plutôt bien foutu, même des grincements, ce genre de choses. C'est vraiment bien fait.
Ok, du coup, passons à la partie narration. La narration, du coup, contrairement à pas mal de trucs qu'on a abordé ces derniers temps, est plutôt linéaire. Mais en même temps, le temps s'écoule de façon dynamique, dirons-nous.
Ouais, c'est ça. C'est un animé qui joue beaucoup avec l'écoulement du temps, vu que comme les êtres sont censés être faits de cristaux, exactement comme la durée d'apparition de ces cristaux, c'est quelque chose qui prend beaucoup beaucoup de temps. Fossophila était censé être un personnage jeune et il y a déjà des centaines d'années quoi. Enfin, c'est un personnage qui a déjà des centaines d'années.
Oui, il y en a qui ont quelques milliers d'années.
Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça joue sur la réflexion et les habitudes du personnage, et notamment sur la notion de qu'est-ce qui prend du temps, qu'est-ce qui est important ou pas. Et c'est là où on voit justement que le personnage principal de Fossophila était limite dans une autre temporalité que les autres. Les autres, en gros,
il est pas dans le même état d'esprit en fait.
C'est ça, ouais. Les autres ont entre guillemets la force de l'habitude, et même Cinabre, qui est censé être malheureux entre guillemets,
il est résigné.
C'est quelqu'un de résigné. Et Fossophila, c'est un personnage qui se dit mais on peut pas rester comme ça. Alors pour les autres, c'est absolument normal de rester comme ça. Et je trouve qu'il y a un autre truc aussi, c'est que c'est par essence, comme ce sont des cristaux, ce sont des personnages qui sont immortels. C'est-à-dire que s'ils se brisent en 1000 morceaux, il suffit de passer, d'aller faire un petit tour chez Rutile, qui est un personnage entre guillemets de
médecin.
De médecin. Et puis si on rassemble tout, si on rassemble tout, et ben le personnage se remet à revivre comme auparavant.
Oui. Avec un truc intéressant du fait que si jamais il manque des petits bouts. Ouais. Il leur manquera des souvenirs.
Ça, c'est un concept.
Après l'assemblage.
Ça fait partie des entre guillemets nombreux concepts de l'animé qui sont vraiment très intéressants là-dessus.
Ouais. Un reproche cependant à faire du coup, un point de vue de narration, c'est que contrairement du coup à Beastars qui a eu une saison 2 et dont la saison 3 est déjà prévue, l'ère des cristaux c'est une saison et wesh. Ça se finit pas du tout.
Complètement pas. Ouais.
Ça répond à allez, 0,000125 questions et ça en pose plein d'autres et puis c'est tout et puis allez, ciao, bonsoir. Hein.
Ouais, d'autant plus dommage que alors le manga est encore en cours mais actuellement en fait, il y a assez de mangas qui ont été faits pour justifier une seconde saison. J'imagine que comme souvent le problème c'est le financement. Ton cher Spice and Wolf est passé par là aussi. On verra bien ce que ça donne.
Donc ça y est, c'est la faute de Spice and Wolf.
C'est la faute des sous, quoi. c'est la faute des sous, tout simplement.
Et oui, du coup, c'est pas Netflix qui est derrière. Hein. Ils sont derrière Beastars pour la diffusion, mais pas pour Seki no Kuni. Donc,
Allez, un geste, Netflix.
Ah, mais non, après, ils vont faire de la compression dessus.
Bon, bah. Allez, un geste et filez-nous ça en Blu-ray.
Ok, bah passons sur les thématiques du coup.
Vas-y.
Ça suit un peu ce que tu disais tout à l'heure avec les personnages qui avaient leurs habitudes. C'est vrai que dans les thématiques, en fait, chaque personnage a un petit peu son rôle, son attribution. Et sauf Fofilaito finalement, qui se cherche. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça donne une bonne dynamique d'échange entre les personnages et dans la hiérarchie aussi.
Oui, surtout qu'il y a quand même Fofilaito, c'est un personnage qui est pas. Enfin, qui est toléré par les autres, mais qui n'est pas trop aimé, justement, parce qu'en gros, on ne comprend pas son utilité, parce que les autres doivent être utiles. Pourquoi ? Parce qu'on est dans... disons qu'ils sont un peu sur le pied de guerre. Toutes les fonctions, en fait, sont un peu optimisées par rapport pour répondre aux attaques des Séléniens, aux attaques répétées des Séléniens, et toute cette organisation, elle est gérée par le maître, qui est un être... où on ne sait pas vraiment si lui aussi est complètement en cristal comme les autres ou fait d'autres choses, même s'il a l'air bien solide, le gaillard.
Il a l'air bien solide, mais il a besoin de faire la sieste.
Oui, bah, oui. Alors que les autres ont besoin d'hiberner, mais ça, en minute, vous verrez ça, ça se voit dans un épisode. Mais il n'y a pas forcément des notions de jour-nuit, même s'il y a quand même de la fatigue, mais ça fait partie des jeux qui ne sont pas ultra... qui sont pas extrêmement bien explicité.
Ouais, libre interprétation, dirons-nous.
Exactement. Et puis il y a quand même une confiance aveugle de tous les êtres envers ce maître-là. Et clairement, non seulement il y a une confiance, mais il y a entre guillemets limite un amour. Certains personnages ont vraiment une admiration sans faille pour ce grand maître. Et peut-être que c'est des choses qui sont amenées à évoluer.
Mmh, oui, peut-être. Du coup, il y a dans les thématiques, il y a aussi la notion de jalousie. Ça peut être de la part d'un personnage qui n'est pas satisfait de sa situation, notamment Cinabre. Ça peut être vis-à-vis d'un personnage qui va plus ou moins intéresser les éléments perturbateurs. Ça peut être aussi d'un personnage qui va jalouser que les autres aient leur place et puis pas lui, bon, typiquement Phosphophilite. Et ça vient nourrir un peu toute cette dynamique entre les personnages. Alors, personnages principaux, bon, si, il y en a quand même quelques-uns qu'on voit plus que d'autres, mais même dans l'ensemble, la dynamique entre tous les personnages, les uns par rapport aux autres.
Oui, complètement. On parlera peut-être un peu plus en détail de Diamond, mais le côté jalousie et non forcément assumé, c'est quelque chose qui drive beaucoup ce personnage-là. Moi, il y a un truc un concept que je trouve intéressant dans le monde très particulier de l'ère des cristaux, c'est qu'en fait, on va avoir une séparation de l'humain en fait entre trois entités. Du côté l'âme qui est censée être représentée par les Séléniens, la chair qui est représentée par des organismes, plutôt sous-marins parce qu'on n'en voit pas trop à la surface, et à la surface, c'est les os. Et le tout définit différentes facettes de l'humanité. Donc d'un côté, le côté très solide et immuable des os, hein, avec finalement peu d'imagination et qui vont se comparer les uns aux autres par rapport à leur dureté. La chair qui doit s'adapter en permanence, qui est toujours en mouvement et qui finalement n'arrive pas vraiment à se trouver une direction. Et l'âme qui finalement semble n'agir uniquement par instinct et est toujours irrémédiablement attirée vers les deux
par
autres.
Par les autres, quoi.
Ouais, par les autres, ouais. C'est ça. Je pense qu'on a fini avec les thématiques.
Ouais, on va embrayer sur les personnages.
Vas-y.
Ouais. Ouais, bah du coup c'est un ressenti. Bon, on a mis ça dans les personnages, mais c'est plus un ressenti finalement sur l'anime en lui-même. Moi, cet anime, Illicus et Dragonzor, donc du forum Canard PC, ont beaucoup insisté avec beaucoup d'enthousiasme pour que je le regarde. Alors à raison évidemment, mais c'est vrai.
Série qui déboîte.
Mais c'est vrai qu'en le regardant au tout début, je me suis dit, mais en fait, mais ils ont conçu la série pour moi et pour ma pâté, quoi. C'est-à-dire qu'on a des personnages avec des apparences plutôt féminines mais genrées au masculin. Qui porte des mini shorts et des talons. Enfin bon, ça fait un peu androgyne, quoi. Et du coup, j'étais là en mode, mais il y a même des, je peux le dire, il y a même des talons en or.
Oui.
Je peux le dire, les talons en or.
Oui, oui.
Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on m'avait piégé, tu sais, qu'on avait mis un petit morceau de fromage avec un bâton et un panier.
C'est un gros bait.
Voilà, c'est ça. mais ouais, donc voilà, ça m'a fait rigoler en voyant ça. Je me suis dit, putain, les coquinouilles, ils connaissent bien la bestiole.
Et perso, c'est même pas pour ça, c'est juste que je kiffe. Mais c'est vrai que j'aurais dû penser à cet aspect-là.
Et du coup, bah, pour les personnages, il y a du coup, on va commencer par Phosphophyllaito, qu'on peut abréger par Phos. C'est le moteur de l'intrigue, clairement. Et c'est un personnage qui est intéressant, alors sans spoiler, de par son évolution qui peut être assez radicale par moment.
Tu peux enlever le assez.
Ouais,
c'est une évolution,
voilà, très radicale.
Radicale.
Du coup, moi j'ai trouvé ça couillu. Et assez inattendu, mais bien amené malgré tout, c'était super cool.
C'est complètement logique, ouais.
Et malgré tout, c'est aussi le personnage auquel je me suis le plus identifié, parce que bah, justement, par rapport aux autres qui sont très résignés ou habitués à leur position, à leur rôle, etc., lui, finalement, c'est le personnage un peu jeune, un peu insouciant, qui se cherche, qui est plus... l'esprit plus ouvert au final, qui a plus de perspectives. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis pas mal identifié à ce personnage, du coup.
Oui, par rapport aux autres, c'est un personnage qui est en mouvement dans tous les sens du terme.
Ouais.
Hein, voilà. En fait, c'est un personnage surtout qui a de grands projets, même s'ils ne sont pas forcément extrêmement bien définis, même parce que c'est un personnage indécis. J'ai une grande ambition, je ne sais pas de quoi, mais j'ai une grande ambition. Et c'est ça qui le rend assez marrant, qui... Il tape sur le système justement à cause de ça aussi, hein, parce que c'est aussi un personnage des fois un peu arrogant et c'est normal.
Oui, il est pas labre, mais au final il fait pas grand chose.
Oui, bah. Oui, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est quelqu'un qui auquel on n'a jamais donné les moyens de réaliser ses projets, mais en même temps, jusqu'à un certain moment de l'intrigue, qui ne s'est jamais vraiment donné les moyens de faire quoi que ce soit. on va dire qu'il aura fallu des circonstances assez exceptionnelles.
Oui, il a une certaine inaction quand même au début.
Ouais, mais justement, c'est ce qui fait que c'est un très bon personnage principal, justement.
Oui, c'est super bien amené, ça, ouais. Je suis d'accord.
Et d'ailleurs, grosse perf de l'actrice de doublage japonaise qui l'a fait, je trouve que c'est vraiment sa performance aussi qui rend le personnage attachant. C'est aussi donc j'avais noté son nom, oui, c'est Tomoyo Kurosawa, qu'on retrouve aussi dans le rôle principal d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Sound Phonium.
Sound quoi?
Tu veux vraiment que...
Est-ce que tu veux que je te le vende
je t'ai vendu L'air des cristaux?
Je connais Ibiki Euphonium de son nom original, ne t'inquiète pas.
Le kiff absolu. Ouais.
ok, et bah du coup, allez, passons à Cinnabre.
Oui, bah je t'en prie, hein,
Non, c'est toi.
Oui, bon, d'accord, Cinnabre, en fait, c'est Dark Sasuke.
Voilà.
Voilà,
moi, j'aurais dit Bort, mais on va y venir.
Moi, c'est Dark Sasuke, en fait, c'est en gros, dans le sens où c'est le personnage qui est triste, qui est dans son malheur, et entre guillemets, qui se complaît dans son malheur et dans son côté sombre et s'isole des autres parce que c'est un personnage qui est trop triste, tu vois. En vrai, c'est une sorte aussi de... C'est par contre le vrai cadre de la motivation de Phos. C'est le vrai cadre de la motivation de Phos, et ça va être entre guillemets aussi l'événement déclencheur qui va motiver, et une sorte aussi de boussole morale qui est assez intéressante, parce que c'est un personnage, c'est pas une boussole morale de final, c'est pas une boussole morale gentil ou méchant,
c'est vraiment une boussole morale sur plutôt le fait d'être heureux ou pas. Et c'est très, et je trouve ça très intéressant. Ouais.
Oui, oui, bien dit, bien dit.
Ensuite, ben, y a un autre personnage.
Ouais,
bah,
Diamond.
Vas-y.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est bon déjà, qui est tout mignon, tout plein. Si d'autres personnages sont plus ambigus en termes de genre, Diamond, je trouve que c'était plus évident.
Personnage le plus qui en tout cas ressemble le plus,
oui,
à un personnage féminin.
Voilà, c'est ça, et qui est extrêmement bienveillant, y compris avec Foss. Ce qui n'est pas donné à tout le monde dans la série.
Ça doit être le seul personnage qui aime bien Foss.
Ah ouais, ou presque. Et...
Même Sinab ne peut pas la blairer, ouais. Peut pas le blairer, hein,
et comme tu disais, supposément innocent. Et quand je parlais tout à l'heure de moments où la caméra faisait des petites folies des familles, et ben ça tourne autour de Diamond, généralement, presque exclusivement.
Ouais, et, aussi, ouais.
et je trouve que la scène la plus cool à ce niveau-là, c'est une scène de Diamond. Donc vraiment... vraiment mise en avant sur cet aspect-là, visuellement parlant.
Ouais, pour continuer sur l'aspect visuel aussi, c'est un des... Justement, comme c'est, voilà, c'est un personnage qui est fait de diamants et qui a aussi... On va jouer aussi beaucoup sur ses reflets en forme d'arc-en-ciel. Et notamment, je me souviens de scènes où on va voir une lumière au loin scintiller très fort avec ses couleurs particulières et ça fonctionne extrêmement bien. Je trouve que voilà, ça fait partie du... on en remet une couche sur le côté visuel, mais il y a un superbe travail notamment fait sur ce personnage là. Un truc qui est sympa avec ce personnage, en fait, c'est un personnage qui est toujours volontaire pour aider, comme tu as dit, par rapport à Foss ou par rapport à d'autres personnages, mais par contre qui est rongé par le besoin d'accomplissement, que ce soit surtout par rapport à un autre personnage qui s'appelle Bort et qui est très proche de
Diamant,
ouais. Et voilà, qui la pousse à faire des choses inconsidérées et à notamment des risques inconsidérés.
Ce qui est marrant, c'est qu'en fait ça fait presque l'opposé de Foss à ce niveau-là.
Complètement.
Où Foss en fait est quasiment en paix avec le fait de rien faire. Et elle, c'est l'inverse, elle fait déjà beaucoup parce qu'elle fait partie effectivement des plus costauds et des plus efficaces en combat. Mmh. Et malgré tout, est en permanence dans le besoin de faire plus pour faire ses preuves et conserver sa place, quoi.
Mmh. Et voilà. Après, sans en révéler trop, effectivement, quand Foss sera amené à prendre des risques gigantesques, ce sera dans des situations vraiment extrêmes, quoi.
Ouais. Et bah du coup, Bort, parlons-en. Bah, Bort, voilà le vrai Dark Sasuke de la série, voire même... le Kirito cheaté. Voilà, hein, si Kirito était un cristal, et ce serait Bort.
Ça manque de harem quand même pour faire un bon Kirito, quoi.
Vu que tous les personnages peuvent être considérés comme féminins, je suis pas
et
tout
masculin
à fait,
en même temps.
Oui, mais pourquoi pas, hein, un harem dans le sens que tu veux. Hein.
Je sais que c'est un personnage qui t'a pas trop parlé, toi. Moi, il m'a plus parlé. Dans le côté, c'est un soldat qui est vraiment accompli, vraiment très sûr de sa force, mais qui va être trop protecteur, dans le sens où il va être en panique à l'idée que soit son coéquipier soit en danger, soit quelqu'un qui est fort n'utilise pas correctement ses capacités et donc se met en danger. Et en fait, je le vois ce personnage comme un grand frère trop protecteur. Donc allez, si on continue la métaphore Naruto...
Je savais que t'allais y venir. Je veux dire Kirito.
Ah non, j'allais dire plutôt le... Pas Sasuke, mais un dénommé Itachi.
Ah, ok, d'accord.
Un dénommé Itachi, avec le côté...
Ah non, mais c'est pas possible, parce que Itachi, c'est mon personnage préféré dans les Naruto.
Oui, bah écoute, c'est possible. Moi, c'est pas le mien. Bon, on continue plutôt sur l'ère des cristaux, plutôt
allez,
que
avec
de parler
le maître.
De ninja, oui. Ouais.
Le
maître, ouais, c'est la
sieste. Pardon,
excuse-moi. Oui, la figure d'autorité, qui en fait c'est tout pour les autres personnages. Hein. C'est vraiment le père, le professeur, le protecteur, mais qui est des fois colérique. Effectivement, il passe sa majeure partie à méditer.
Voilà, il dit méditer. Hein.
Voilà, alors que et aussi. Même si c'est un personnage qui reste finalement assez mystérieux sur pourquoi il fait les choses, ça fait partie des personnages sur lesquels on va voir les moments d'humour les plus fun, on va dire.
Ouais. Rapide mention honorable, entre guillemets, à quelques personnages.
Vas-y.
Moi, je voulais mentionner Beryl, du coup, qui après Foss, c'est un personnage auquel je me suis pas mal identifié, qui me plaît beaucoup, qui est du coup le personnage de la couturière, en gros. Et du coup, toi, il me semble que c'est un personnage qu'on a déjà mentionné rapidement.
Ouais, c'est le personnage de Rutil, en fait, qui est surnommé charlatan par
Fosse, ouais.
Par Fosse, en fait, c'est un personnage de docteur qui, justement, n'a pas forcément d'aptitude au combat, mais est capable de passe inlassablement son temps à essayer de comprendre et de réparer ses camarades. Par contre, ça en fait une vilaine manie de scientifique de vouloir à peu près tout disséquer, que ça soit vivant ou pas.
Ou pas encore.
Ou pas encore, ou encore trop. Donc, c'est effectivement, bon, ce genre d'humour, c'est un truc auquel j'accroche pas mal.
Ouais. Pour faire une espèce de conclusion à notre épisode sur cet animé, je voulais revenir sur un peu l'ensemble du concept de Hoseki no Kuni, donc l'ère des cristaux. C'est un animé qui fait du bien dans le sens où quand on est un peu comme nous, là, des vieux cons un peu blasés qui commençons à avoir vu pas mal de choses, que ce soit en quantité ou en qualité, en variété, ça fait partie des rares productions que tu peux regarder aujourd'hui en te disant « Ah, ben ça, j'avais encore jamais vu, tu vois ?» Et du coup, c'est une grande qualité et c'est un grand point fort. C'est que, bon, après, ça peut vous plaire ou ça peut ne pas vous plaire, hein, on accroche plus ou moins.
Ça reste assez radical.
Voilà,
hein.
Mais en tout cas, que ce soit du coup en termes de visuel, de musique, d'ambiance, ou même le concept, cet univers-là qui nous est présenté, vous n'avez jamais vu ça si vous ne l'avez pas encore regardé. Et du coup, ça vaut le détour de ne serait-ce que d'aller voir les quelques premiers épisodes pour voir si ça pourrait vous plaire.
C'est ça, il y a en plus, outre l'aspect technique dont on a parlé, il y a une proposition artistique qui est
très, très tranché, hein.
Qui est très tranché et qui est... Il n'y a pas de demi-mesure, pour le coup. On sent que, par exemple, pour comparer à un autre boulot du studio qui est Beastars, il y a un peu plus de compromis déjà sur Beastars à cause, on va dire, de certains rendus qui veulent être réalistes. Là, comme on est vraiment sur du jamais vu en termes d'univers... Il y a quelque chose où ils se sont dit bon, on y va à fond, on y va à fond, et en tout cas voilà, c'est comme toujours les séries qui essayent et qui y vont à fond, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et voilà, après pour moi il y a un peu le côté hit or miss, c'est-à-dire que si t'accroches pas dès le début, ça t'auras du mal. Il y a des aspects qui plairont pas à tout le monde, et
ça
voilà.
C'est sûr, malgré tout. En allant voir les premiers épisodes, on ne pourra pas dire j'avais déjà vu, j'avais l'impression d'avoir vu la série avant de l'avoir vu, quoi. Parce que c'est pas possible, en fait. Ouais.
Voilà, en tout cas, voilà. Moi, c'est une de mes séries préférées, en tout cas sur le côté proposition artistique et construction d'univers, c'est une de mes séries préférées d'animation japonaise, clairement.
Voilà. C'est plutôt un bel accomplissement.
Yes.
Voilà, donc c'était le mot du soupirail. Et ben voilà, du coup, c'est la fin de cet épisode sur l'ère des cristaux, donc Hoseki no Kuni. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à retourner écouter nos dernières sorties là de ce début de printemps. Et puis, en attendant, on vous dit restez à l'écoute pour un prochain épisode.
Salut!
Salut! Netsuka ni tsugi wa ni tadayota sono iro